Alors, on m'a remis un petit papier. C'est en fait tout simplement la bonne semence, des versets quotidiens que vous pouvez lire. Il y a tellement de choses qui existent, mais je vous le lis. C'est tiré de Amos 8, versets 11 et 12. Voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Alors dans le commentaire qui est fait, où sont les Bibles ? Avec un gros point d'interrogation. Dans plusieurs pays, la liberté religieuse n'existe pas. Et avoir une Bible, c'est rare, c'est un bien précieux. Et il est précisé que dans certaines communautés, seul le pasteur a une Bible. Et pour vous, chez vous, vous avez certainement plusieurs Bibles, avec des versions différentes, avec des commentaires, sans commentaires. Mais où sont-elles? Elles ne sont pas dans le grenier. ou dans un placard? Non. Tant mieux. Et le dimanche, pour aller au culte, vous avez une Bible. Alors au culte, il est précisé donc qu'on entend la parole, on peut lire la parole. Et quand on a un moment de loisir, je résume un petit peu, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on utilise ce moment de loisir pour ouvrir la parole? Point d'interrogation. On prend du temps, de plus en plus aujourd'hui, pour rester connecté. On a notre téléphone dans la poche, ou dans les mains. Et on regarde nos messages. Certains non. Ok. Bon. Moi, ça m'arrive de temps en temps de regarder, même si je ne suis pas hyper connecté. Mais je regarde les messages. On s'envoie même des photos avec WhatsApp et compagnie. Mais est-ce que j'ai autant de zèle? Est-ce que vous avez autant de zèle pour ouvrir la parole aussi rapidement que vous ouvrez votre téléphone? Alors, ça se termine en « Ne négligeons pas la parole qui demeure éternellement ». Et il ne s'agit pas d'avoir une Bible, mais il faut non seulement le lire, mais croire ce que ce livre contient. Voilà pour ce petit partage de ce qu'on m'a remis ce matin. Et je dirais que ça va aussi dans le sens du titre, j'ai au moins un titre dans ce que je vais vous présenter ce matin. Soyons des disciples. Alors il y en a qui vont me dire encore, mais Jean-Didier, tout ce que tu nous dis souvent, ça a rapport à ça. Soyons des disciples. Alors, je vais, et vous allez pouvoir ouvrir votre Bible d'ailleurs, dans Hébreux 13 au verset 8. Je vous laisse un peu de temps pour ouvrir vos Bibles. On peut l'avoir aussi sur son téléphone d'ailleurs, hein, la Bible. On peut la dégainer aussi rapidement avec le téléphone. Il y a plein d'applications qui le permettent. Donc, je lis Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète. Dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous le croyez ? C'est une affirmation que nous entendons, que nous prononçons. Il faut serrer cette vérité dans notre cœur. Alors, pour expliquer un petit peu cela, parce que le fait de lire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que ce qu'il a dit et ce qu'il a fait hier est valable aujourd'hui. On est bien d'accord ? Donc, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Marc 16, 16. Avant, il n'y avait pas le vidéoprojecteur, donc on était obligé d'avoir sa Bible et puis de l'ouvrir. On cherchait, on entendait les pages qui se tournaient plus ou moins rapidement. D'autres qui regardaient le sommaire, hein, c'est où celui-là déjà ? Mais on y arrivait. C'était une bonne chose. Ouais. Alors, pour les prochains dimanches, emmenez votre Bible. Et feuilletez-la, usez les pages. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, nous dit Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Amen. Alors, on voit bien que là, Jésus, comme il est, ce qu'il faisait hier, c'est valable aujourd'hui et éternellement, il nous explique la démarche, croire et se faire baptiser. Et après, il nous dit que suivent les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Qu'est-ce que ça veut dire croire ? Ça veut dire accepter Jésus comme son sauveur personnel, accepter Jésus qui est mort pour nous, qui est mort pour moi. Ok ? D'ailleurs, il y a combien de personnes, vous allez pouvoir lever la main, il n'y a pas de piège, hein, combien de personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel ici et se sont fait baptiser. Levez la main. N'ayez pas, il n'y a pas de piège, hein. Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel et vous êtes fait baptiser? Vous avez été plongé dans l'eau. Amen. Pratiquement la majorité ici ont levé la main. Vous avez pratiquement tous levé la main parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes fait baptiser. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe si on relit la parole de Marc 16 ? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, amen. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, ici, dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous le vivons quotidiennement ? Pour ma part, pas toujours, pas vraiment. Parce que je prie, mais est-ce qu'il se passe quelque chose ? Pas toujours. Est-ce que j'ose aller prier pour des personnes que je ne connais pas, parfois, pas toujours. Est-ce que je vais dans la rue pour prier pour des personnes que je ne connais pas? Rarement. Alors il faut quand même se rappeler une chose, pour continuer dans l'explication, je ne veux pas porter de jugement, il ne faut pas que vous trompiez dans ce que je ne veux pas faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est une question de prise de conscience. Vous vous souvenez que Jésus a dit qu'il est bon que je rejoigne le Père afin que le Père fasse descendre sur vous, sur nous, sur moi, quoi donc? L'Esprit Saint. Et afin que les choses, elles sont bien expliquées dans la Bible, mais dans Luc 4, au verset 18, c'est Jésus qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors maintenant, on sait qu'il est sur nous aussi maintenant. On est OK là-dessus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, une fois de plus, Jésus, il nous montre l'exemple. Il nous explique. Il nous explique afin qu'on ne doute pas que maintenant que tout est accompli, pour reprendre là aussi les mots de Jésus, maintenant que tout est accompli, eh bien, tout ce qu'a fait Jésus, nous pouvons le faire. Il a même précisé qu'on en fera de plus grandes. OK ? Où sont les grandes choses qui nous appellent à accomplir ? Il y a quelque temps, je me souviens, nous avons reçu ici une personne de Portes Ouvertes qui nous parlait de l'église persécutée. Monsieur qui venait du Mans, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était au début de l'année. Et moi, ça m'arrive assez souvent de reparler de cette personne, de ce qu'il a dit, parce que ça m'a touché, bouleversé. Parce que il témoignait sur l'Église persécutée, et nous, quand nous prions pour l'Église persécutée, on naturellement, Seigneur, que la persécution s'arrête. Et lui, il était là, il nous dit: mais vous ne savez pas ce qu'ils m'ont dit, les gens que j'ai visités dans ces pays persécutés? Ils m'ont dit: mais ne priez pas que la persécution s'arrête. Il n'y a jamais eu autant de conversions depuis que nous avons la persécution. Rien que d'en parler, c'est incroyable. J'étais assis là, je me dis: mais c'est pas possible. Et en plus, non seulement il nous demande de ne pas prier pour que la persécution s'arrête, mais eux, ils prient pour nous, en Occident, pour la France, parce que vous êtes persécutés, disent-ils, et vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est quoi cette persécution ? C'est le marchand de sable qui est passé. Nicolas et Pimprenel et le marchand de sable. Pour les plus anciens, les plus se souviennent, mais pour les autres, ne se souviennent pas trop. C'est qui ce Nicolas et Pimprenel? Et dès que le marchand de sable passait au-dessus, comme ça, il y avait une petite poussière qui brillait. La télé était en noir et blanc à l'époque. Et dès que la poussière, elle arrivait sur le lit de Nicolas et Pimprenel, Il s'endormait. Alors, au risque de vexer les plus zélés d'entre nous, le diable a envoyé un marchand de sable et il envoie son sable comme ça, il le répand sur la France, sur l'Occident d'une manière générale. Et nous, je suis chrétien. Et si je suis chrétien, tu parles en dormant, ouais, je suis chrétien. Je suis chrétien et je lis la parole de temps en temps, moins que mon téléphone, parce que j'ai des messages très importants sur WhatsApp. Oh, et en plus je ronfle. Si des personnes à l'autre bout de la terre ont été informées par l'esprit qu'en Occident, qu'en France, le marchand de sable envoyé par le diable est passé pour nous endormir, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a une réalité. Que des personnes à l'autre bout du monde prient pour nous de cette manière-là aussi précise, c'est que l'esprit leur a parlé pour pouvoir orienter leur prière d'une façon efficace. Alors, on peut toujours se dire, non, mais tu comprends, avec la persécution, ils voient le mal partout, forcément, si on est dans un pays persécuté. On peut aussi se justifier, non, mais attends, moi, je lis la Bible. Dès le matin, au réveil, je prie le Seigneur parce que je lui remets la journée qui va se passer. Voilà. On peut trouver plein de bonnes raisons pour ceux qui pratiquent tout cela tous les jours et qui le soir, avant de se coucher, louent le Seigneur et le remercient pour la journée qui s'est passée et pour qu'il passe une bonne nuit et dit « Seigneur, demain est un autre jour et tu pourvoiras demain, chaque jour suffit sa peine » et ainsi de suite, etc. Et il y a plein de gens parmi nous qui faisons tout cela. On ouvre la parole, on lit la Bible, on regarde parfois peut-être même un film chrétien, on fait des choses comme ça. Et on a l'impression, on vit notre vie chrétienne. On vient le dimanche matin ici, ou dans d'autres églises d'Angers, et on vient écouter la parole, on prend des nouvelles des uns des autres, on fait notre vie de chrétien. Enfin, il me semble. Mais pour autant, il y a une grosse partie de nous qui est endormi. Mais alors, à un point, est-ce que vous croyez que c'est possible que nous soyons des chrétiens endormis? Si nous n'étions pas des chrétiens endormis, peut-être que ça se bousculerait devant la porte pour le deuxième service. Peut-être que partout où nous passons, comme Pierre quand il passe à côté d'une personne, et on prierait pour cette personne pour qu'elle soit guérie. Que même peut-être la lumière qui rejaillit de qui on est en tant que chrétien éclairerait toutes les personnes que nous côtoyons. Parce que c'est la réalité aujourd'hui. Donc c'est bien quand même qu'on est quand même endormi. Quand on prie pour la guérison, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut le faire. Il faut y croire. Il faut serrer les vérités dans son cœur. Il faut persévérer. Il faut le faire. Il faut se bouger. Je parle pour moi aussi, hein, attention, hein. Alors, pour ceux qui sont en accord avec ce que je viens de dire, en reprécisant que, comme dit Jésus, celui qui croit il sera baptisé, il sera sauvé, et il pourra faire tout ce qui a été dit, imposer les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pour ceux qui croient vraiment que l'Esprit du Seigneur est sur nous, en nous, et comme on ne voit pas les miracles qui doivent nous accompagner, et que donc nous sommes endormis, donc nous avons besoin d'être réveillés, et bien pour ceux qui partagent cela, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Ouais. Donc, on peut appeler le réveil dans le monde, mais si les chrétiens ne commencent pas à se réveiller réellement, eh bien le réveil dans le monde, il n'arrivera pas. Parce que Dieu, comme il est bon, il nous associe à ses plans. Et il veut des chrétiens réveillés. Amen. Alors on va prier ensemble et que plusieurs élèvent la voix dans ce sens. Seigneur Jésus, tu vois, avec mes frères et sœurs ce matin, on a pris du temps pour te louer, pour t'adorer, parce que on sait qui tu es. On a partagé la scène parce que on veut se rappeler que tu es mort pour nous et que grâce à toi, à ton sang versé, nous avons la vie. Tu es mort et ressuscité. Et maintenant, nous sommes vivants grâce à toi. Nous avons la vie grâce à toi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, prendre autorité sur l'adversaire, prendre autorité, cette autorité qui est en nous par ton Saint-Esprit. Nous voulons la saisir, cette autorité, pour réclamer, pour ordonner que les yeux des chrétiens s'ouvrent, que cet endormissement qui a été envoyé par l'adversaire soit nul et qu'il soit, je le chasse par le nom de Jésus, je chasse cet endormissement, que les cœurs s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que vraiment nous puissions réaliser que nous étions endormis, que vraiment il puisse y avoir en nous vraiment un souffle nouveau, que nous vraiment nous puissions vivre différemment, que nous puissions vivre comme des disciples et non plus comme des chrétiens. J'avais envie de dire comme des chrétiens du dimanche, mais ne le prenez pas mal, mais Seigneur, tu vois ce que je veux dire. Alors, vraiment que nous soyons des disciples, souffle par ton esprit, souffle sur nous, que vraiment nous puissions être balayés par ton souffle puissant. Réveille-nous, que ton Saint-Esprit qui vit en nous prenne toute la place et que nous lui laissions toute la place nécessaire, que nous soyons transformés, bouleversés par ton esprit qui réagit en nous. Laissons-le s'exprimer.